Cube Radio. Vous l'avez vu? Vous l'avez lu? Maintenant, entendez-le. Avec Antoine Joubert et Germain Goyer, le guide de l'auto. Cube Radio.
Bonjour tout le monde, bienvenue au Guide de l'auto, édition du 22 octobre 2022. Salut Germain.
Bonjour Antoine.
Bon, écoute, en deuxième partie d'émission, on reçoit Marie-Lou.
Oui.
Qui est la nouvelle ambassadrice de Hyundai. Bien hâte de lui parler parce que j'ai hâte de comprendre un peu comment le processus d'embauche s'est fait, tout ça. Mais avant toute chose, quelques actualités. Et je veux d'abord commencer en rappelant aux gens que le concours roulé au suivant est toujours en cours jusqu'au 24 octobre à 23h59.
Donc, il reste quelques jours maximum.
Il reste quelques jours seulement. Vous pouvez participer en allant sur la page roulerausuivant.com en téléchargeant une vidéo de 30 secondes qui va permettre de vous vendre essentiellement, de nous dire pourquoi vous êtes la personne qui méritait plus que quiconque de remporter un nouveau véhicule. Il y a 4 véhicules qui sont en liste, donc un VUS compact, une voiture compacte à boîte automatique, une voiture électrique et...
De première génération.
Il ne s'agit pas d'une Tesla.
Camionnette.
Et une camionnette pleine grandeur. Donc...
Une belle variété de véhicules.
Oui, une belle variété de véhicules. Notre équipe va travailler là-dessus. On va débuter les tournages de tout ça dans quelques semaines à peine pour une diffusion sur TVA, cette fois à l'été 2023. Alors, participez en grand nombre. roulerausuivant.com pour aller remplir le formulaire et télécharger votre petite vidéo. Vous pouvez évidemment appliquer pour vous ou pour quelqu'un d'autre ou pour un organisme ou une compagnie. Alors, le choix est vaste.
Je pense que je vais t'inscrire. Ça serait drôle.
C'est une bonne idée, hein?
Oui.
Oui, c'est ça. OK, ça marche. Non, je vais être disqualifié par mon équipe, je pense.
J'ai l'impression.
Cette semaine, Germain, on a dévoilé quelques véhicules de très grand luxe, mais je veux commencer avec une constatation que j'ai faite concernant le Ford F-150 Lightning que j'ai pu conduire encore une fois cette semaine et que je présenterai à Salut Bonjour demain dimanche. Alors, Ford F-150
Lightning... Le prix a monté un peu, là.
Le prix a explosé en 6 mois à peine, parce qu'on se souvient que le Lightning 2022 est arrivé au printemps sur le marché. Donc, échelle de prix de 58 à 110 000 $. Ça, c'était l'échelle de prix pour un modèle 2022. En vérité, c'était de 68 à 110 000 $ parce que le modèle à 58 000, qui est le modèle Pro, n'est disponible qu'aux entreprises. Remarque, il y a beaucoup d'entreprises qui se procurent
absolument,
des camions de
genre-là. Absolument, et avec raison,
là. Mais le modèle Pro, en toute honnêteté, c'était à peu près pas disponible. On n'en a pas fabriqué beaucoup. C'est un modèle d'entrée de gamme, puis comme tous les véhicules chez Ford, les modèles d'entrée de gamme, ils existent beaucoup plus sur papier.
Des véhicules électriques d'entrée de gamme, c'est souvent plus théorique qu'autre chose.
Mais là, les prix ont littéralement explosé. Alors, c'est passé de 58 000 à 67 000 $ pour la version Pro, de 68 à 79 000 $ pour la version XLT, de 80 à 90 000 $ pour la version Lariat et, tenez-vous bien, de 110 à 121 000 $ pour la version Platinum.
Pour essentiellement la même camionnette à laquelle on avait droit il y a 6 mois. Il n'y a pas d'amélioration considérable qu'on a apportée. Autrement dit, on avait un prix d'appel. On voulait tout casser avec un prix intéressant. Ouais. On voulait faire parler du véhicule. Mais après ça, la réalité, c'est qu'il faut en vendre. Et il faut que le véhicule soit rentable et qui soit rentable aussi au Canada. Je ne sais pas si les prix vont être majorés du même ordre aux États-Unis aussi, mais en tout cas, ça, c'est l'échelle de prix pour le Canada. Et c'est pas mal plus cher qu'avant, là.
C'est pas mal plus cher qu'avant. Bon, évidemment, pour les entreprises, il y a un rabais pour entreprises gouvernementales de 10 000 $ qui vient s'appliquer sur ces véhicules-là. Mais là, tu auras compris que ce 10 000 $-là est complètement anéanti par la hausse de prix.
Oui.
Ford profite de l'engouement, carrément, mais je trouve que c'est complètement inacceptable qu'on fasse exploser les prix de la sorte.
Puis alors, je me mets dans la peau du consommateur qui en a réservé un et qui n'était pas nécessairement dans le haut de la liste ou qui n'avait pas des relations privilégiées avec son concessionnaire. On avait réservé un 2022 et finalement, on va lui livrer un 2023 et va finalement payer son véhicule 10 000 $ de plus. C'est un peu embêtant.
C'est un peu embêtant. C'est surtout que c'est une insulte à l'intelligence des consommateurs. On profite de la vague. Puis Ford, c'est une autre preuve qu'on se fiche de plus en plus du marché canadien.
Mm-hmm.
Pour ne pas dire on s'en... C'est effrayant. Je me trouvais au Michigan cette semaine pour un événement dont on va parler la semaine prochaine à l'émission. Et je suis passé devant un concessionnaire Ford dans la région de Ann Arbor. Tiens-toi bien. Et pour ceux qui ne me croient pas, allez voir l'article que j'ai rédigé cette semaine pour le guide de l'auto.
Les photos sont claires.
Vous n'avez pas idée de l'inventaire qui se trouve chez les concessionnaires américains. Je dis pas que c'est partout pareil aux États-Unis, mais du moins dans la région de Détroit,
il y en a pas
Ann Arbor, des F-150, il y en a 50 en inventaire. Des Escape, des Bronco Sport, il y en a une douzaine. Des Bronco pleine grandeur, une vingtaine en stock. Autant des Raptors que des deux portes, que des versions héritage. Des Transit, des véhicules qu'on attend 2 ans ici. Bien, il y en avait 3 en stock avec des étiquettes de vide. J'ai vu un Maverick hybride en stock. Ils ont
des choses qu'on ne verra pas chez
on
nous.
On peut se présenter chez un concessionnaire Ford là-bas pour magasiner un véhicule. Oui, bonjour, j'aimerais acheter un Explorer, telle couleur, tel équipement. Ben oui, monsieur, on va vous le livrer cette semaine. Pas de problème, on l'a en inventaire.
C'est donc, comme il n'y a pas de 3 mois, 6 mois, 2 ans d'attente.
J'ai posé des questions à des journalistes automobiles qui sont du coin. Et on me dit que c'est relativement nouveau qu'on puisse constater ça. Des inventaires comme ça, il y a quelques mois à peine, on n'en voyait pas. Mais là, c'est revenu. Je suis passé devant un concessionnaire de Nissan. Il y avait une dizaine de Frontier sur la ligne en avant.
Bonne chance c'est pour impossible. En avoir ici.
Ici, il n'y en a pas. C'est 1 an d'attente. Alors, c'est dire à quel point, et particulièrement chez Ford, on essaie de limiter l'exportation des véhicules en dehors des États-Unis. On se fiche pas mal du Canada. Vous voulez des véhicules au Canada? Parfait, on va faire exploser les prix, puis tant pis. Si vous en voulez pas, c'est pas grave, on va les vendre aux États-Unis. C'est comme ça que ça marche, c'est ça la vérité. Puis, il y a des concessionnaires qui sont un peu mieux armés que d'autres au Québec ou au Canada anglais, bien sûr, mais il en demeure pas moins que de devoir débourser près de 50 000 $ pour un Bronco Sport, ça n'a aucun bon sens. Quand tu regardes l'écart de prix avec le marché américain, ça n'a pas d'allure. Et ce qu'on vient de faire avec le Lightning, ça aussi, c'est inacceptable à mon avis. Maintenant, ce ne sont pas les véhicules les plus américains les plus chers du marché. À preuve, Cadillac vient de dévoiler une voiture de 400 000 $.
Oui, effectivement, c'est une rumeur qui circulait depuis quelques mois à l'effet que Cadillac irait concurrencer des marques de très grand luxe comme Bentley, comme Rolls-Royce et compagnie. Ce qui nous rendait peut-être un peu sceptiques parce qu'on s'imaginait mal comment une compagnie qui vend des véhicules...
On n'a pas dit sceptique.
Voilà. Voilà. Et tu sais, comment une marque qui vend des CT4 et des XT4 puisse faire des produire et commercialiser des véhicules de très grand luxe. Et pourtant, ben on a confirmé le tout cette semaine. Donc, c'est une berline de très grand luxe, une berline 100% électrique avec un look qui est unique, à couper le souffle. Avec un empattement qui est démesurément long. C'est le propre d'un véhicule électrique. Oui, évidemment...
mais là, c'est quelque chose. On est tout près de l'autobus scolaire. Là.
Oui, tout près. Prochaine étape, il y aura un stop qui va s'ouvrir sur le côté. Donc, une voiture immensément élégante, mais effectivement, avec un coup de crayon qui ne ressemble à rien d'autre. L'empattement qui est très, très long. Elle est basée sur la plateforme Ultium de GM, évidemment, comme tous les véhicules électriques.
Ah oui, du Honda Prologue.
Oui, aussi. on a eu quelques détails techniques. Effectivement, tu mentionnais son prix. Aux États-Unis, on la vendra 300 000 $ américains. Quel sera son prix chez nous? Bonne question. Mais si on convertit 300 000 $ américains...
On est au-delà des 400 000.
Oui, ce qui frappe l'imaginaire, là, tu vas être d'accord avec moi. Sinon, elle a droit à une batterie de 111 kWh pour une autonomie annoncée par le fabricant à 483
km. Je m'en allais dire 111 kWh pour une voiture de cette taille-là.
Oui.
considérant qu'une une Tesla Model S, par exemple, a une batterie de 100 kWh. Ouais. Lucid a une batterie qui joue dans ces eaux-là aussi. C'est pas une batterie démesurément plus grande, là.
Non, mais on joue pas non plus dans la très grande efficacité de la batterie parce qu'on propose pas 600 ou 700 km d'autonomie,
non.
Là.
Non.
Donc, ça... Comparativement, GM n'a pas encore
fait ses preuves à ce niveau-là.
Oui. On parlait de Lucid qui a une très grande efficacité de batterie. Là. Ouais. Donc, avec une batterie...
Et des moteurs aussi.
On n'arrive pas de ce côté-là encore chez GM. 600 chevaux, 640 livres-pieds de couple, 0-100 en moins de 4 secondes. Ça devrait être rapide, mais j'ai hâte de voir si la clientèle, elle, fera si on arrivera chez Cadillac à charmer au point une clientèle pour lui faire
cracher...
Est-ce que
ça va être 6 fois plus impressionnant qu'un Lyriq?
Ben voilà.
Tu sais, parce qu'un Lyriq, ça part à 70 000, grosso modo.
Ouais.
Véhicule que j'ai pu conduire cette semaine. D'ailleurs, ouais. On va pouvoir y revenir la semaine prochaine.
Ouais.
Mais c'est un véhicule impressionnant, le Lyriq. Alors, est-ce que la Célestiq est 5-6 fois mieux que ça?
Parce que la facture est
5-6 fois plus élevée. Là. C'est quand même pas rien. Bon, il y a une autre voiture qui a été dévoilée cette semaine qui, elle aussi, est magnifique. Et j'oserais te dire que ça me réconcilie un peu avec la marque.
Ah bon? Ben en fait, on parle de la Rolls-Royce Spectre.
Voilà.
Et dans quelle mesure elle te réconcilie avec la marque?
Ben moi, un Cullinan, je trouve ça hideux.
Oui.
Je trouve que c'est un véhicule qui, premièrement, ne va même pas bien.
Mm-hmm.
C'est un mauvais VUS en termes de poids, d'efficacité, de rendement. Ben, c'est hyper luxueux. Ben là, la finition est extraordinaire.
Parlant de poids, le modèle électrique qui a été dévoilé cette semaine.
Ouais.
D'ailleurs, vous irez voir des photos. C'est un très beau coupé qui ressemble beaucoup à la Wraith.
Ouais.
C'est pas facile à prononcer, mais on va être correct avec ça. Elle est plus pesante, la Spectre, qu'un Cullinan. Là.
Évidemment, parce que c'est un véhicule électrique.
C'est 700 kilos de plus qu'un Cullinan. Là. C'est extrêmement pesant.
C'est sûr. Mais je trouve que on est plus... Ça faisait longtemps que Rolls-Royce n'avait pas lancé une belle voiture.
Oui.
Je trouve qu'on était audacieux dans les designs et parfois disgracieux dans le cas du Cullinan, si tu me permets le commentaire. Mais là, avec la Spectre, on a vraiment fait un design comme Bentley est capable d'en faire. Chez Bentley, on a un coup de crayon qui, à mon avis, est magnifique. Chez Rolls-Royce, c'était pas ça. Et là, ben, on débarque avec une bagnole qui en met plein la vue, comme la Célestiq d'ailleurs, comme quoi les voitures électriques peuvent aussi être très attrayantes. Mais là, on est dans des factures de haut niveau. Écoute, c'est 3 fois plus cher que le prix de ma première maison. Là.
C'est considérable.
C'est quelque chose.
Évidemment, un symbole des véhicules Rolls-Royce, c'est le toit intérieur étoilé. On retrouve ça nulle part ailleurs. Elle y aura droit, elle aussi, le modèle Spectre.
Alimenté par les batteries.
Voilà.
Le guide de l'auto. Avec Antoine Joubert et Germain Goyer.
Antoine, j'ai conduit récemment le Hyundai Kona N, qu'on peut aussi appeler le Conan, si on en a envie. Et en fait, j'avais hâte de conduire ce véhicule de performance, même si en même temps, j'avais une tonne de questions en tête. J'étais très perplexe face à ce véhicule-là, parce qu'essentiellement, c'est un VUS sous-compact, mais de performance.
Ben, c'est... Écoute, oui, c'est une voiture. Là.
C'est une voiture, mais... Mais un Kona, quand...
Mais certainement moins intéressante que l'Elantra N hatchback qu'on vend en Europe.
Oui. Ça n'a rien à voir. Mais ça reste... Le Kona, pour moi, reste un VUS. Donc, même s'il a tous les attributs d'une voiture, ça demeure, dans les faits, un VUS. Mais pour avoir conduit chacune des versions du Kona au fil du temps... Pour moi, c'est la pire version du Kona. C'est le pire Kona qu'on puisse acheter. oui, on a des performances intéressantes avec le moteur 2 litres turbo compressé, d'accord.
Mais qu'est-ce que tu veux faire avec des performances dans un Kona?
Qu'est-ce que tu veux faire avec ça? Puis si tu veux accélérer rapidement, ben je te signale qu'il existe un Kona électrique qui, lui aussi, est à roue motrice avant et franchement beaucoup plus intéressant. Donc, c'est un Kona qui est cher, mais à roue motrice avant exclusivement. On a une boîte à double embrayage qui est hésitante comme on peut même pas l'imaginer.
On ne peut pas l'avoir manuel, lui.
On ne peut pas l'avoir manuel, contrairement à la Elantra N, qui est toujours aussi laide, mais...
Mais plus amusante à conduire, clairement, là.
Ben, plus agile, possiblement, oui, oui. Là. Mais, bref, l'effet de couple, pour moi, m'a paru comme étant un irritant de ce véhicule-là. Oui. On ne gère pas la puissance au train avant comme on peut le faire chez Volkswagen ou même chez Honda, par exemple.
Mais avec la Civic Type R.
Ben oui, voilà, oui. C'est un exemple qui m'est flagrant. Alors, non, j'ai vraiment pas eu un coup de cœur pour le Kona N, sans parler en plus du fait que ce soit aussi confortable qu'un banc de parc, là, parce que les suspensions sont extrêmement rigides, ce qui enlève tout confort. Alors, ce serait...
L'empattement est court, les flancs des pneus sont très minces, il n'y a pas de confort là-dedans, c'est bruyant également.
Donc, ce serait, je te le confirme, le dernier Kona que j'achèterais, ce serait la version N, qui est pourtant la version qui pourrait être attirante par son côté sportif, mais pour moi, c'est un mauvais mariage de composantes qui pourraient être bien.
Tout à l'opposé de mon véhicule coréen.
Un autre
coréen.
Véhicule coréen, oui. Oui,
mais dans un autre spectre cette semaine.
Spectre.
Oui, spectre. Cette semaine, j'ai parcouru pratiquement 2000 km au volant de la plus luxueuse des voitures coréennes jamais produites, qui est la Genesis G90 de nouvelle génération.
Une belle voiture, là.
Très belle voiture, avec une mécanique franchement impressionnante. On combine le V6 3,5 litres turbo compressé à une hybridation légère 48 volts pour aller chercher 409 chevaux, 406 livres-pieds de couple.
Donc, au décollage depuis un stop ou une lumière rouge, l'hybridation légère doit faire toute la différence. Là.
C'est pas une bombe.
Non, mais on a cette couple, instantanéité voilà, qui est intéressante.
Qu'on n'avait même pas avec le V8 du précédent modèle. Alors ça, j'ai trouvé que c'était très intéressant. Consommation moyenne à 8,5 litres au 100 sur route.
Pour une grosse voiture
Pour une grosse
de
voiture
format-là.
Comme ça, c'est raisonnable. Mais c'est tout ce qui... Lorsque vous ouvrez les portes qui s'ouvrent et qui se referment de façon automatique, vous installez à bord du véhicule, vous appuyez sur le frein avant de démarrer le véhicule et à ce moment-là, la portière se ferme d'elle-même. Il y a aussi des boutons pour les fermer, pour les ouvrir, à l'avant, à l'arrière.
On essaie d'en mettre plein la vue. Là.
On en met plein la vue. La finition, elle est impeccable. Évidemment, bien, vous allez retrouver les deux écrans de 12,3 pouces qu'on retrouve chez d'autres produits coréens, mais évidemment réaménagés à la sauce Genesis avec tout ce que ça comprend comme gadget. Il n'y a pas de reconnaissance faciale comme on a, par exemple, sur le GV60, qui est le seul à l'offrir pour le moment.
Mais
il y a une reconnaissance digitale au niveau de la console centrale qui vous permettrait de démarrer le véhicule sans clé. C'est un véhicule rempli de gadgets, d'accessoires, bon, sièges chauffants, massants, ventilés, tout ce que vous voudrez. Le système de conduite autonome que j'ai exploité très longtemps sur la route, ça fonctionne très bien.
C'est rare, ça.
Jusqu'à ce que la voiture soit sale, parce que si les capteurs sont souillés, ben là, à ce moment-là, la voiture imagine qu'il y a des véhicules autour quand il n'y en a pas. Fait que ça devient un problème. Bref, c'est un système qui roule très, très bien. C'est confortable, la finition est magnifique. Et la conclusion que j'ai faite de cette voiture-là, c'est que pour 50 000 $ de moins qu'une Classe S, c'est une voiture qui n'a pas à être gênée devant une Mercedes et qui éclipse absolument une Lexus LS en matière de finition, de confort, de comportement, de mécanique. La Lexus, elle est reléguée aux oubliettes. Tu vas me dire que chez nous, ça se vend pas, mais dans le sud des États-Unis, c'est des voitures qui sont importantes. Et la G90, c'est une voiture qui actuellement, aussi drôle que ça puisse paraître, prend des parts de marché aux États-Unis. C'est quand même pas rien.
Laissez faire votre clientèle. Entrez directement dans le guide de l'auto. Cube Radio.
Germain, dans les dernières semaines, j'avais rédigé un article sur, évidemment, l'embauche de Marie-Lou comme nouvelle ambassadrice de la marque Hyundai, mais aussi l'importance d'un porte-parole pour des constructeurs automobiles au Québec, pour pas qu'on se fasse passer des publicités anglophones qui nous sont impersonnelles, maladroitement traduites. Là.
Avec un véhicule qui fait de la drift dans le désert. Là,
ouais, comme Acura MDX, ouais. Pour ne pas le nommer. Là. Ça m'a donné évidemment l'idée d'inviter Marie-Lou, comme on l'avait fait à notre première émission, tu te souviens?
Oui, on avait aussi reçu le porte-parole de Hyundai qui était différent.
Comme notre première émission, et aujourd'hui, on est à notre 189e émission, donc il y a 189 semaines ou à peu près. On parlait à Guillaume, mais aujourd'hui, on parle à Marie-Lou qui est avec nous au bout du fil. Bonjour Marie-Lou.
Bonjour.
Bonjour, merci de l'invitation.
Eh bien, grand plaisir. D'abord, félicitations pour ce nouveau contrat parce que on sait ce que ça représente. Puis, évidemment, le processus d'embauche d'un porte-parole ou d'un ambassadeur, ambassadrice pour un constructeur automobile, c'est une étape de plus en plus complexe, de plus en plus lourde parce que on sait qu'il peut arriver des situations malheureuses où parfois on n'a pas le choix de rompre les contrats. On se souvient de ce qui
est... On ne souhaite pas ça, évidemment. Là.
On se souhaite pas ça, mais
ça peut arriver.
Il y a des choses, des fois, que tu contrôles pas, tu sais. Puis évidemment, me vient en tête la situation de Véronique Cloutier avec Suzuki il y a
une vingtaine d'années, peut-être?
Pratiquement, oui, une quinzaine d'années, où elle n'était même pas impliquée directement dans un scandale, mais sa famille l'était, et à cause de ça, Suzuki avait rompu le contrat. Alors, Marie-Lou semble avoir passé toutes les étapes. Et la première question que j'ai pour toi, c'est tu es ambassadrice pour Hyundai maintenant. C'est quoi la différence entre une ambassadrice et une porte-parole? Parce que la nuance n'est pas toujours évidente.
Là. Oui, bien, c'est intéressant comme question parce que moi, quand j'ai reçu ce premier courriel-là, tu sais, qui est une invitation à une rencontre, j'ai été la première tellement surprise parce que dans ma tête, un porte-parole, c'est justement quelqu'un qui va vendre des véhicules, qui va parler du feature des voitures, qui va même parler des prix. Donc, ça, c'est vraiment un porte-parole. L'ambassadeur, lui, va représenter le brand et les valeurs de la marque, ce qui fait beaucoup plus de sens pour moi. Donc, c'est ça la nuance entre le porte-parole et l'ambassadeur de marque.
OK. Donc, il n'y aura pas de Hyundai Elantra à 389 par mois.
Avec pneus d'hiver sans frais, il n'y aura pas de ça avec toi.
Exact.
Okay.
Et il n'y aura pas de grandeur nature non plus de Marie-Lou dans les concessionnaires. C'est vraiment c'est pas mon mandat. c'est louable, c'est vraiment correct. Mais tu sais, moi, je me voyais pas faire ça pour le moment. Peut-être dans 5 ans, quand je vais vraiment connaître ça ou que je vais avoir quelque chose à dire de pertinent ou que ça va, il va avoir un fit. Mais en ce moment, je trouve que je suis vraiment, mon rôle, c'est vraiment de parler de la marque, de ses valeurs, de l'image, de coller aussi ma personnalité à celle de Hyundai. Puis ça, pour moi, c'est vraiment évidemment un grand honneur, puis c'est un beau défi, puis c'est une aventure qui commence, puis je suis vraiment très, 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 très excitée de ce partenariat-là.
Tu n'es pas issue et du moins connue du grand public par l'automobile. C'est pas nécessairement une association qu'on aurait fait naturellement entre toi et une marque automobile. On a envie de connaître quelle est ta culture automobile, quel est ton intérêt pour l'auto et ce qu'elle représente pour toi.
Bien, c'est ça, c'est que quand tantôt je vous parlais du premier courriel, j'ai tellement été surprise. Je me suis dit, mais si ce n'est que le fait que je suis une mère de famille qui a absolument besoin d'un véhicule pour vivre, parce que je suis en banlieue, parce que j'ai deux enfants, j'ai une entreprise, je voyais moi-même pas le lien, tu sais, je connais pas assez ça pour pouvoir en parler de l'automobile en tant que telle. Donc, mon lien avec la voiture, c'est vraiment utilitaire, j'en ai besoin. Puis évidemment, ben, je veux que ce soit confortable, je veux que mes enfants soient bien, je veux que ce soit sécuritaire. Mais au-delà de ça, maintenant, je pense que c'est comme ça que les gens de ma génération consomment, c'est qu'on veut l'histoire derrière la marque, on veut des valeurs, on veut des prises de position. Et moi, c'est ça aussi qui fait en sorte que je m'attache à un brand puis dans tous les domaines. Donc, mon lien avec Hyundai est en train de se développer. Je découvre en fait des gens formidables derrière l'entreprise. Mais ma culture automobile, là, c'est pas. En toute humilité, en toute transparence, je m'y connais pas tant que ça. Tout comme la majorité des femmes et des hommes qui achètent des véhicules pour les mêmes raisons que moi.
Parmi tes premiers véhicules, parce que je crois que tu me disais avoir eu ton permis de conduire assez jeune et tout de suite avoir pu profiter d'une voiture qui était un sentiment de liberté pour toi, c'était quoi tes premières voitures?
Absolument. Et moi, c'est ça, j'ai grandi en banlieue, puis j'ai commencé à travailler très jeune, donc j'allais pas à l'école. Je faisais l'école privée, donc je me suis vite sentie très, très isolée. Tu sais, quand aller au dépanneur, ça prend 20 minutes de marche, ou aller chez tes amis aussi. Donc, pour moi, avoir une voiture, là, je me souviens, j'avais fait un gros calendrier, puis je cochais les dodos avant
le permis de conduire.
Exactement, parce que c'était synonyme de liberté, puis j'avais vraiment hâte. Puis mon premier copain, quand j'étais adolescente, il était un petit peu plus vieux que moi, puis il avait une cabriolet, puis on était très cool dans notre décapotable, puis je m'étais toujours dit, ah, moi, ma première voiture, je veux que ce soit une Golf. Donc, le jour où j'ai passé mon permis, j'étais allée m'acheter ma première Golf, puis j'ai vécu plein de belles aventures dans cette voiture-là. Mais ça a été sincèrement très significatif pour une fille isolée de pouvoir, le jour, pendant que tout le monde est à l'école, moi, sortir de chez moi puis faire des choses, des jours où j'avais pas de contrat ou de travail.
Qu'est-ce qui est important pour toi, hormis le fait, en faisant comme si tu n'étais pas ambassadrice d'une marque automobile, tu magasines un véhicule demain matin, quelles sont les priorités lorsque tu te procures un véhicule, toi?
Et moi, c'était beaucoup la sécurité. Surtout depuis que je suis maman, je voulais m'assurer que c'était sécuritaire. C'est à ce que je pensais d'abord et avant tout, le confort aussi. Je voudrais qu'en ce moment, c'est comme si j'étais en train de découvrir justement qu'une marque de véhicule peut avoir des valeurs. Je m'y arrêtais pas. T'sais, je m'y arrêtais dans mon domaine, dans le domaine des arts, puis ça, puis en parlant avec Andy, puis c'est ça qui m'a vraiment rattaché puis qui m'a vraiment donné envie d'aller de l'avant dans cette collaboration-là, c'est que puis les gens qui ont vraiment un souci d'être à l'écoute des gens du Québec, ça pour moi c'est très très important. Ben c'est ça. Je sais pas c'est quoi la question, je suis comme allée loin dans ma
Non, mais c'est parfait. Dans le fond, tu sais, chaque personne a sa raison ou l'élément principal qui va faire qu'on va choisir un véhicule plutôt qu'un autre. Il y a des gens qui nous disent qu'ils ne peuvent pas de se passer d'essuie-glace intermittent. Il y a des gens qui nous disent qu'ils ne peuvent pas se passer de caméra de recul ou
d'un volant chauffant, même. Ouais, c'est ça.
Fait que, tu sais, il y a toutes sortes de trucs.
Vous me parlez, puis je me rends compte aussi qu'il y a quelque chose de très intimidant par rapport à ce milieu-là. Je me suis toujours sentie intimidée justement parce que je m'y connais pas énormément dans le domaine. Puis j'ai toujours eu besoin de support, de conseils de l'extérieur. Puis le fait que Hyundai choisisse une femme de famille qui est très occupée, qui a pas nécessairement le temps de se poser 1000 questions quand vient le temps d'acheter son véhicule, je trouve ça le fun. Puis ça me donne de l'assurance puis de parler de ça avec les gens, tu sais, qu'on développe un lien de confiance entre le consommateur et Hyundai pour s'éduquer tous ensemble puis rendre ça plus facile, évidemment, le choix de l'achat d'un véhicule.
C'est peut-être mon petit côté curieux, mais j'ai envie de savoir comment ça a fonctionné, le processus, avant d'arriver là, à la signature du contrat. Tu nous dis avoir reçu un premier courriel. Quelles ont été les étapes suivantes? Puis ça s'est étiré sur combien de temps? Parce qu'on sait que le poste était vacant depuis un an à peu près, jour pour jour. Là.
Jour pour jour, lors de l'annonce officielle.
Voilà.
C'est vrai, c'était jour pour jour, mon Dieu. Je ne savais même pas.
Ouais.
Moi, j'ai reçu un appel au mois de mai dernier. Je sais que ça faisait déjà longtemps que le processus était entamé. Je sais que c'est quelque chose qui est quand même d'envergure. Ils font des sondages, des recherches. Puis lors de la première rencontre, je m'amuse souvent à dire que j'avais l'impression qu'ils en connaissaient plus sur moi que moi-même. Là. Il y avait vraiment étudié mon parcours, regardé quasiment toutes mes entrevues. Tu sais, je les sentais vraiment au courant de qui je suis. Je me trouve très, très chanceuse parce que je pense que leur choix était très clair. Là, il n'y a pas eu de d'audition ou de quoi que ce soit. Je pense qu'ils voulaient qu'on travaille ensemble. Moi, de par ce que j'ai dit justement en début d'entrevue, je me disais, mais est-ce que je peux chausser ces bottines-là? Tu sais, je m'en allais un peu quasiment refuser cette affaire-là parce que je me disais, mais c'est trop gros pour moi. Qui suis-je pour conseiller les gens? Puis après, au fil de discussions, ça a été plusieurs discussions avec l'agence, avec aussi Hyundai. mais je me suis rendu compte que, mon Dieu, c'est des gens qui ont vraiment des valeurs qui se collent aux miennes, leur virage vert aussi, leur virage électrique qui me touche beaucoup, leur désir de philanthropie aussi, que je leur dise, est-ce que c'est possible qu'on puisse envisager de collaborer au-delà de la publicité, qu'on pose des actions sociales, qu'on s'implique ouais. ensemble, qu'on bâtisse une relation. Je me disais, mais ils vont me trouver là, puis ils vont eux-mêmes me dire, voyons donc, on va pas travailler avec elles. T'sais, je leur disais, moi, quand je m'implique dans quelque chose, je suis exigeante avec moi, je suis exigeante avec les gens autour de moi parce que je veux le mieux, tu sais. J'aimerais ça qu'on fasse les choses différemment, puis j'étais sûre, honnêtement, j'étais sûre qu'ils allaient me dire, ben là, regarde, tu rêves en couleur, on peut pas faire ça, tu sais. Puis au contraire, je pense que ça les a stimulés, on s'est stimulés ensemble, puis ça a duré quelques évidemment, semaines, mais ça a vraiment été des discussions, puis cette relation-là a commencé, puis c'est ça, on est en début de relation, on apprend à se connaître, puis là, je suis vraiment, honnêtement, complètement réjouie.
As-tu des squelettes dans le placard? Parce qu'évidemment, c'est un élément qu'on va regarder avant l'embauche.
Ça va, Patrice Lécuyer.
Oui, c'est ça. C'est ça. Mais on va... c'est des éléments qu'il faut regarder. Et puis évidemment, il faut être transparent lors d'une embauche comme ça. Évidemment, je te demande pas de me dire ta vie personnelle, mais on sait que, on se souvient de ce qui est arrivé avec Marie-Pierre Morin. Si GM avait su ce petit élément-là et si on avait pu prévoir que ce que j'appellerais une anecdote fasse boule de neige et fasse en sorte qu'on n'ait pas le choix de la remercier de ses services, on l'aurait jamais embauché. Alors, c'est sûr que c'est des éléments qu'on regarde lorsqu'on signe un contrat avec un ambassadeur ou un porte-parole.
Ben oui, c'est sûr. Tu sais, moi, je souligne mes 20 ans de carrière cette année. J'ai toujours été excessivement transparente quant à mes défis. J'ai vécu des troubles alimentaires. Je ne m'invente pas une femme parfaite qui a pas de failles. J'ai mes défis, j'ai flirté avec l'anxiété, j'ai trouvé mon début de maternité difficile. Puis aussi arrêté de boire il y a 8 ans. J'aimais pas la personne que j'étais quand je buvais, d'être déconnectée. C'est toutes des choses dont je parle ouvertement. Donc, je pense que ça, c'est quelque chose que et le public et mes nouveaux partenaires apprécient.
Ben oui.
Il y a rien à apprendre de plus sur moi. Après, bon, ma vie personnelle, c'est ma vie personnelle.
Bien sûr.
Mais je suis très, très honnête quant à mes plus gros défis que j'ai traversés. C'est ça, je pense que dans ce cas-ci, ça me sert parce que je m'invente pas parfaite. Il y a quelque chose que je trouve beau dans l'humilité, dans le fait d'être capable d'admettre qu'on est tous des humains. C'est pas parce que je suis une personnalité publique que j'ai moins de défis ou que je les relève mieux que les autres.
Ouais.
Ça, c'est un discours que je continuerai toujours d'avoir dans la transparence avec les gens qui me suivent, ça, c'est sûr.
Avant de dire oui et de signer en bas de la page 3 copies, as-tu consulté des gens
qui... C'est quand
qui...
t'achètes un auto, Germain. Oui, d'après moi, un contrat comme ça, il y a plus que
3 pages. Hein? Ouais. Oui. Mais as-tu consulté d'autres membres de la colonie artistique qui ont été porte-parole par le passé ou qui le sont toujours pour avoir un peu une idée concrète de ce dans quoi tu t'embarquais ou t'as foncé tête première et...
Par exemple, l'autre Marie-Lou.
L'autre Marie-Lou, tout à fait.
J'ai pas appelé l'autre Marie-Lou. Mais c'est sûr que j'ai fait des téléphones de gens de confiance que je nommerai pas, mais que vous pouvez imaginer. Des gens qui sont proches de moi pour leur demander conseil. Mais en fait, les réels conseils que je suis allée chercher, c'est plus aux gens, au niveau des gens proches de moi qui me connaissent bien. J'en ai parlé au début de ma réticence parce que je me disais, mais est-ce que c'est juste pour l'environnement, c'est moi qui emploie des gens du Québec, fais des produits d'ici. Je me dis, est-ce qu'il y a une dichotomie là-dedans dans le fait de m'associer avec un constructeur automobile?
Puis, ouais, tu me permets, c'est un point qui est particulièrement important sur le marché du Québec. On se souvient qu'il y a quelques années, Guillaume Lemaitre-Vierge avait signé le pacte de l'environnement qui avait été initié par Dominique Champagne. Et suite à la signature de Guillaume Lemaitre-Vierge de ce document-là, il avait été sévèrement critiqué parce qu'il était en même temps porte-parole d'un constructeur automobile qui vendait notamment des VUS.
Et au notamment Québec, des véhicules à essence, mais on avait aussi une gamme avec des véhicules électriques.
Puis Hyundai, c'est un des constructeurs les plus...
Qui a le vent dans les voiles, qui en livre le plus.
Mais au Québec, il faut tout le temps être plus blanc que blanc.
Ou plus vert que vert.
C'est ça. Alors, c'est vraiment une zone délicate.
Mais vous, que vous voyez tellement clair. Moi, ça a été ma grosse peur au départ, tu sais. Puis je pense que c'est le fait, en fait, je vois vraiment ça comme une chance de participer au discours de près avec des, tu sais, je suis carrément dans le bain avec les autres, tu sais, de pouvoir amener mes questionnements. Et on a déjà parlé de philanthropie. Il y a quelque chose que je me dis, mais c'est pas de me tourner contre eux, c'est de faire équipe ensemble, parce que la réalité, c'est qu'on a tous besoin d'un véhicule, ou en tout cas, la plupart des gens ont besoin d'un véhicule pour vivre, pour notre travail. C'est pas de me fermer les yeux sur la réalité, mais c'est de plonger dedans puis d'essayer de faire les choses de bien faire les choses puis d'essayer de les changer petit à petit. Puis, tu sais, comme je disais, c'est un début de relation. On le sait pas ce qu'on va arriver à faire ensemble, mais je sais qu'on s'en va, qu'on aimerait ça aller à la même place puis être créatif. Donc, c'est ce que je trouve très stimulant. Puis les gens autour de moi m'ont conseillé justement, m'ont dit qu'avec ça faisait du sens. Puis je plonge aujourd'hui en toute humilité et j'espère que j'espère rendre fiers les gens au Québec puis et moi-même de ce qu'on va faire éventuellement un des mois.
Tu parles de créativité. Moi, je regarde évidemment l'ensemble des pubs qui sont faites au Québec en automobile. Et je te dirais qu'il y a certains rôles de porte-parole ou d'ambassadeur que je trouve plus intéressants que d'autres, dans la mesure où ils sont impliqués dans le processus créatif des publicités, alors que d'autres ont comme simple mandat de faire ce qu'on leur dit. Et tu as vraiment l'impression que c'est une publicité qui est calquée de l'équivalent anglophone. On avait justement parlé avec Marie-Lou Wolfe sur cette question-là, et elle est impliquée dans le processus. Martin Matt, c'était la même chose. C'est lui qui arrivait avec les idées de publicité.
Et Marie-Lou Wolfe incarne son propre rôle dans les publicités. Ouais. Là. Donc, on sent quand même un lien naturel entre la publicité et elle-même.
Oui. Alors... évidemment, toi, est-ce que tu as un rôle de créativité? Comment on t'implique dans ces publicités-là?
Ah, c'est certain. Pour moi, c'était non négociable que j'allais faire partie de la création. C'est sûr que là, ça s'est fait très rapidement. Là. Tu sais, les publicités ont été tournées en toute transparence. J'avais même pas signé mon contrat encore. Là. Je l'ai signé dans la journée 2 du tournage. Ça s'est fait à une vitesse fulgurante. Puis il y avait déjà évidemment de la confiance. Là. Mais donc le concept était là. Je l'avais vu. J'ai essayé de donner. Mais c'est sûr qu'on va le bâtir. Là, on retourne en tournage dans un mois, puis on va essayer de bâtir de plus en plus quelque chose autour de ma personnalité. Puis ce qui est le fun, c'est que je fais tellement de choses différentes. Je vais avoir mon retour à la musique bientôt. Ouais. Je suis une entrepreneur, je suis une mère. Donc, c'est de comment on fait pour bâtir, de bâtir quelque chose autour de la personne que je suis. Mais c'est certain à 100% que je vais être impliquée de plus en plus dans la création des publicités qui vont évidemment toutes être tournées ici au Québec.
Juste un petit conseil comme ça en passant, mon collègue et maniaque de techno, Mathieu Roy, et moi, nous avions fait un petit vidéo dans une Ioniq 5 où on avait branché un grille-pain dans la voiture parce qu'il y a une prise dans le véhicule qui permet de brancher les accessoires jusqu'à hauteur de 1500 watts.
Alors
si jamais tu as envie de cuisiner dans une Ioniq 5, sache que c'est possible.
Un malaxeur à la fois.
C'est ça.
Mais dans une des publicités, on va faire un pique-nique justement, puis je plug mon petit four électrique.
Un petit walk,
c'est différent.
Un petit walk, ouais, c'est, des fois, il y a des variations de mots comme ça, ça marche pas.
Un petit walk aux légumes.
Ouais.
tu nous disais au début ne pas être une grande connaisseur de l'automobile, de ne pas avoir suivi l'évolution de l'automobile de très près. Forcément, tu as été amené à découvrir la gamme Hyundai. Est-ce que tu as eu des coups de cœur et des belles découvertes de ce côté-là?
Mais là, je peux pas vous cacher.
Cache-nous rien. Non.
Non, mais quand j'ai conduit le Ioniq 6, je vais le dire en bon québécois, mais j'ai pogné quelque chose.
Mais on est très curieux de t'entendre parce que nous, on ne l'a pas encore conduit d'ailleurs.
C'est vrai, mais non. Je pense qu'on avait comme un démo, un prototype. Mais écoutez, plus vous allez vraiment reconnaître là, la femme qui ne s'y connaît pas trop pour décrire le feeling, mais j'avais vraiment l'impression de voler. C'était comme léger, je ne sais pas comment expliquer le feeling, mais c'est un feeling que j'ai jamais vécu, moi, quand on faisait un autre véhicule. Tu pèses sur le gaz, puis c'est comme... ça, c'est la liberté, là. J'ai vraiment été impressionnée. L'intérieur, c'est spacieux aussi, beaucoup d'espace.
Ouais.
Je me vois très bien avoir ce véhicule-là avec mes deux gros bancs de bébé en arrière. Puis d'ailleurs, je risque de l'avoir en début d'année. Ça, je suis très excitée. Mais oui, le Ioniq 6 m'a vraiment surpris. Le Ioniq 5 aussi, que le beau bleu que je conduis dans les publicités, je l'ai adoré. La grosse caméra au centre. Sinon, le Palisade aussi, je l'ai trouvé magnifique. Moi, je ne connaissais pas. Très pratique aussi pour la maman que je suis, qui a tout le temps des amis du quartier qui débarquent dans la voiture pour la petite sortie aux pommes. Donc, c'est ça, je suis très charmée par plusieurs véhicules. J'ai eu l'occasion d'en conduire beaucoup durant le tournage des dernières publicités.
Puis le Palisade, évidemment, c'est un produit, si je ne m'abuse, qui est un peu équivalent à ce que tu conduisais avant d'être engagé par Hyundai. Donc, c'est un produit qui te rejoint, toi, au niveau de tes besoins personnels.
Ben oui, parce que j'ai une famille. Puis comme je disais, moi, je suis dans un quartier hyper familial. Puis les autos, là, ça, pas les autos, mais les enfants, on dirait que ça retombe tout le temps chez moi. Puis je suis en train de faire plein d'activités avec plein d'enfants. Fait que c'est sûr que...
C'est peut-être parce que tu fais des bons biscuits.
C'est peut-être parce que j'ai des bonnes croustades. Je sais pas. J'aime bien penser que c'est parce que je suis la mère cool du quartier. Là, mais là, vous brisez mes rêves un peu. Mais c'est sûr que, bon, j'avais un 7 passagers. Mais là, j'aimerais beaucoup... c'est pour ça que je parlais du fait que c'est spacieux. Il y en existe, je trouve ça le fun. Si je suis habituée à quelque chose qui est grand, fait que j'ai très hâte de l'avoir et de faire mon virage aussi électrique.
Bon, évidemment, ton embauche s'est faite quelques mois après le congédiement ou la cessation de contrat de Guillaume Lemaitre-Vierge, qui a été là pendant 12 ans. Il a ouais. fait un travail, à mon avis, extraordinaire pendant 12 ans.
Absolument.
Autant au Québec qu'au Canada anglais. Son contrat a duré aussi longtemps que celui de Martin Matt. Donc, c'est pratiquement un record, si ma mémoire est bonne, au niveau de la longévité des contrats qui ont été donnés par des constructeurs automobiles. Est-ce que tu as un peu l'impression que ce sont des grosses chaussures, des grosses pointures à chausser, ou est-ce que tu pars de zéro toi-même en te disant c'est un autre défi, c'est un angle différent?
Bien, moi, je trouve que c'est un défi par rapport à moi-même, pas par rapport à Guillaume. Guillaume, j'ai énormément de respect pour ce qu'il a fait et la place était libre. J'ai pas tassé personne.
Effectivement.
Donc, tu sais, quand je vais au cinéma puis que je prends un banc, il y avait quelqu'un avant, mais là, j'ai pas poussé personne. Je m'assois, je prends la place, elle est là, on me l'offre. On vient me choisir pour ce que je prends comme valeur, pour mon mode de vie. Je pense qu'il ne faut pas que je tombe dans la comparaison parce que ça me...
Non.
Je peux pas.
Parce que le rôle est différent, l'approche est différente, mais le but ultime est le même, je pense. Là.
Ben le but ultime est le même, oui et non. Je pense que moi, je suis pas là pour faire vendre des véhicules. Je suis là pour parler de la marque, pour à travers mon image, faire rayonner leur véhicule. Donc, c'est quand même différent. C'est pas la même chose. Les publicités sont différentes aussi.
Ouais.
Mais c'est ça. Je pense que mon défi à moi, c'est de pas tomber dans la comparaison. On est deux personnes complètement différentes. On a deux univers complètement différents. Je serais pas capable de faire aussi bien ce que lui a fait. Et je pense qu'il serait pas capable d'assumer non plus ce que je vais faire. C'est trop deux univers, puis c'est bien comme ça. Mais je suis honorée de reprendre le flambeau, en quelque sorte, puis j'espère qu'il va être fier.
Il n'y aura peut-être pas de pub de toi qui saute en parachute, en disant ça comme ça.
Et je vous confirme que si on me demande ça, non, je pars en courant. Impossible.
Non, puis peut-être, en fait, peut-être l'avantage, c'est que, bon, évidemment, je disais ça parce que ça ne fait pas longtemps que Guillaume n'est plus là. Et lorsque un artiste quitte un rôle, que ce soit un rôle à la télé, dans un téléroman ou change de position, même si un chroniqueur change de média, ben pendant un certain temps, il continue de se faire dire qu'on aime son travail à l'ancien endroit où il travaillait.
Est-ce que tu as un exemple à nous donner, Antoine,
oui,
par exemple?
Mais comme le congédiement, si on peut dire ça comme ça, de Guillaume Lemaitre-Vierge a été très fortement médiatisé, je pense qu'il n'y a pas grand monde au Québec qui ne sait pas que Guillaume n'est plus porte-parole de Hyundai. Et ça joue certainement à ton avantage.
Ben j'imagine. Puis tu sais, moi, je suis consciente que ça doit être aussi un en tout cas, je peux pas parler pour lui, puis c'est pas ça le but. Mais tu sais, en fait, je vais parler pour moi.
Ouais.
C'est tellement, il y a tellement de chaleur dans cette équipe-là, autant à l'agence, GND, tu sais, il y a vraiment comme une famille. Moi, ça fait pas longtemps que je travaille avec eux, mais il y a un esprit de collaboration. Il y a quelque chose de spécial que moi, j'ai pas nécessairement expérimenté souvent ailleurs. Fait que ça doit être quelque chose, tu sais, après 12 ans, je peux imaginer le lien d'attachement, puis tu sais, on sait pas exactement comment ça s'est passé, puis ça nous appartient pas, mais c'est ça, pour Lyon, ça doit être quelque chose à vivre, et pour le public aussi, parce que je pense que mon point, c'est que ça devait se sentir, tu sais, on sentait le lien d'attachement, donc c'est jamais le fun d'une séparation, mais je n'en suis pas la cause, et je pense que c'est ça qu'il faut retenir.
Est-ce qu'on t'a dit, en terminant, comment bien prononcer le mot Hyundai?
Parce que c'est pas tout le monde qui l'a, là.
Ouais, des fois, on entend Hyundai, Hyundai.
Hyundai?
Ouais,
Hyundai, oui. Je l'ai entendu, ça, il y a pas longtemps, même, là.
C'est pas Hyundai, c'est Hyundai.
Hyundai.
C'est Hyundai, puis c'est... Puis si tu écoutes des Coréens, les Coréens disent Hyundai.
Ouais.
C'est pas Hyundai, c'est Hyundai.
Mais en Europe, tu entends souvent les gens dire Hyundai, hein?
Ouais.
C'est une autre affaire.
Il y a toutes sortes de mauvaises façons de le dire. Prends celle avec laquelle tu es confortable. Merci beaucoup, Marie-Lou, d'avoir été avec nous. C'était super le fun.
Et si tu me permets, je garde le mot de la fin. Wah!
Oui.
Wah!
ça aussi, c'est la prononciation est parfaite.
Oh, merci.
Merci beaucoup, Marie-Lou.
On se reparlera. Bye-bye.
Ça marche. Bye-bye. Bye.
Merci.
Antoine Joubert, Germain Goyer. Des vrais gars de char. Le guide de l'auto.
Antoine, terminons avec quelques questions des auditeurs. On a Daniel qui voudrait savoir ce que tu lui recommandes entre un Ford Escape hybride et un Hyundai Tucson hybride également.
Ah, c'est une bonne question. L'Escape hybride est certainement un véhicule moins énergivore. Je trouve que son comportement est intéressant. Et oui, je pense que j'irai chez Ford. Bon, Hyundai, évidemment, a une garantie meilleure, un véhicule qui est peut-être un peu mieux assemblé et qui va peut-être mieux passer l'épreuve du temps. Si c'est un véhicule que vous voulez garder longtemps, j'ai peut-être un peu plus confiance au Hyundai Tucson, parce que Ford n'a pas encore réussi à nous prouver que les véhicules étaient capables de perdurer. On a un ami commun, toi et moi, qui a un Escape 2014, donc un véhicule qui a 8 ans, et il y a des trous bord en bord parce que la carrosserie ne tient pas. Ça n'a pas de bon sens.
C'est un peu gênant. C'est un peu gênant.
C'est le
comme
problème.
Résistance à la corrosion.
Ça n'a aucun bon sens. Là, on va nous dire chez Ford qu'on a amélioré la nouvelle génération, mais il y a juste le temps qui va nous le dire. Et on ne le sait pas encore.
Ouais.
Mais au niveau du rendement mécanique, du rendement énergétique, du comportement routier, l'Escape est un véhicule vraiment impressionnant. Et c'est aussi un véhicule plus aérodynamique qui te donne l'impression de conduire davantage une voiture qu'un VUS. Personnellement, bon, il y a beaucoup de gens qui n'aiment pas le look de l'Escape. Ils préféreraient avoir un look un peu plus camion. Moi, personnellement, j'aime beaucoup. Je pense que ça va bien vieillir, surtout par rapport à un Tucson où il y a des coups de couteau un peu partout dans la carrosserie au niveau design. Et ça, je pense que ça va moins bien vieillir. Alors, personnellement, pour le rendement de la mécanique, pour le confort, pour le comportement routier, je choisirais l'Escape. Mais si vous voulez le conserver très, très, très longtemps, soit vous prémunir d'une garantie prolongée chez Ford ou tout simplement aller chez Hyundai qui a une garantie plus complète et qui, à mon avis, a un véhicule peut-être un peu mieux construit.
On a Nathalie qui nous écrit que son beau-frère lui a dit de se méfier de la mécanique du Subaru Crosstrek en version tourisme 2023. Qu'en dis-tu?
C'est le moteur 2 litres. On a connu, des problèmes il y a très longtemps avec ce moteur-là. Aujourd'hui, ça ne m'inquiète absolument pas. Les problèmes de surconsommation d'huile, ça fait longtemps qu'on n'a pas vu ça dans ces mécaniques-là sur des Crosstrek. En fait, les Crosstrek de nouvelle génération, ça ne s'applique pas. Et ce modèle-là est arrivé sur le marché en 2018. Il faut savoir que la Crosstrek se renouvelle pour 2024. Alors, les 2023, ce sont des modèles de fin de série. S'il y avait des problèmes à corriger, on les a corrigés. Mais cette génération de la Crosstrek est une voiture extrêmement solide, extrêmement fiable et qui déprécie à peine. Alors, c'est parmi les meilleurs choix de ce segment-là, même si c'est un modèle qui est sur le point d'être renouvelé, là, finalement.
Merci beaucoup, Antoine. Bonne fin de semaine.
Bonne fin de semaine.
Cube Radio.